Merci. Merci à Arid pour ce temps de louange. Merci à Céline. Merci à Céline pour le message. C'était tellement fort, c'était tellement parlant cette vidéo. Le berger qui est devant avec sa houlette, avec son bâton, qui montre le chemin, qui montre la voie. Et ce que je trouve intéressant dans le passage que tu nous as lu, que Ruben nous a lu, merci Ruben, ça faisait plaisir d'entendre ta voix. Le passage dans Ézéchiel, j'ai un peu une autre version, mais qui dit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées. » Et le passage continue. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans le peuple du temps de Malachie. Et oui, on est encore et toujours dans le livre de Malachie. C'est la cinquième prédication qui concerne ce livre et on avance. Et on se rend compte que pendant toutes ces prophéties de Malachie, eh bien Dieu est en train de faire la revue de son troupeau. Dieu est en train de voir dans quel état est son troupeau, est-ce qu'il est en bonne santé ou bien pas. Et il est aussi en train de voir, mais en fait c'est un troupeau qui est éparse, qui s'est dispersé, qui s'est éloigné. Alors, je vous propose de lire dans Malachie. On en est au chapitre 3, à partir du verset 7. Malachie 3, les versets 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Le troupeau, à ce moment-là, le troupeau est dispersé. En quoi devons-nous revenir? Il y a vraiment un appel de l'Éternel à revenir à lui et le peuple ne sait pas pourquoi. Le peuple se pose la question, mais en quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait? En quoi devons-nous revenir? Eh bien, si vous vous souvenez, ce qu'on a déjà vu pour Malachie, c'est que le peuple, il était dans un état vraiment, vraiment lamentable. C'est un peuple qui, au travers des siècles, avait vu la fidélité de Dieu, avait été béni abondamment par Dieu. Dieu avait fait la différence par rapport à tous les autres peuples. Mais en fait, c'est un peuple qui doutait complètement de l'amour de Dieu. Et ça, on l'a vu dans le premier passage qui parlait de Jacob et Ésaü, où le peuple hébreu, c'est la descendance de Jacob qui ne se rendait même pas compte, en fait, que la faveur de Dieu avait été sur lui par rapport à la différence d'Ésaü. Et puis ensuite, on a vu aussi que le peuple offrait des mauvais sacrifices à Dieu. Ils méprisaient complètement le culte, ils apportaient des offrandes estropiées, même des sacrifices qu'ils avaient volés. C'était vraiment catastrophique. Et la troisième fois, le troisième reproche que Dieu fait à son peuple, c'est que c'était un peuple adultère. Adultère et idolâtre. Ils allaient chercher des épouses dans d'autres peuples et avec les épouses, ils ramenaient leurs idoles. Mais en plus de ça, quand ils étaient mariés avec des femmes israélites, eh bien, ils les répudiaient pour aller prendre d'autres femmes dans les autres peuples. Et le quatrième reproche que Dieu fait à son peuple, c'est qu'en fait, ils disent que Dieu est injuste. Ils disent que Dieu appelle mal le bien, qu'il appelle bien le mal, et ils réclament, ils disent, mais il est où le Dieu de justice? Et on a vu que Dieu lui-même, la personne de Jésus, est la justice. Et qu'à un moment donné, de façon définitive, il va exercer la justice. Et ça, c'est quelque chose qui va encore venir. Et là, ça continue. Et là, ça continue. On n'a encore pas touché les domaines. Le peuple demande, en quoi devons-nous revenir? Ils se rendent vraiment pas compte dans quel état ils sont. Et parfois, pour nous, c'est la même chose. Parfois, on se rend compte que on n'est pas en totale communion avec Dieu. On se rend compte que il y a quelque chose qui va pas. Il me semble que avant ma relation avec Dieu, elle était meilleure et je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui me freine. Il y a quelque chose qui fait obstacle à ma relation à Dieu ou à mes prières ou je ressens moins la présence de Dieu. Et en fait, c'est bon de se poser la question. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une séparation entre Dieu et moi? Dans Apocalypse 2, 5, par exemple, quand Dieu y parle à toutes les églises d'Asie mineure, à Éphèse, il lui dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est bon de se dire, mais en fait, où est-ce que je suis tombée? Où est-ce que je me suis arrêtée dans ma course? Est-ce que quelque chose m'a freinée? Et quand on ne trouve pas, des fois on le sait. Des fois on sait en fait ce qui s'est passé. Mais des fois on ne sait pas. Et là, c'est bon de demander au Saint-Esprit, de lui dire, mais Saint-Esprit, montre-moi. Montre-moi ce qui m'empêche d'aller plus loin avec toi. Montre-moi ce qui me freine. Parfois, le Saint-Esprit, il répond sur l'instant, pendant un temps de prière. Et parfois pas. Parfois, il répond plus tard. Ça peut être au travers d'une parole dans la Bible, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être plusieurs choses en fait. Il faut juste sortir. Moi, je parle souvent de nos antennes spirituelles. Il faut sortir comme les antennes d'un escargot qui scrute un petit peu son environnement. Sortir nos antennes spirituelles puis dire, mais comment est-ce que tu me parles, Seigneur? En quoi devons-nous revenir? Je prends verset 8. En quoi t'avons-nous trompé? Et la réponse de Dieu, dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alors là, on comprend qu'il s'agit d'un principe, je dirais financier, mais en fait, on peut se rendre compte que c'est beaucoup plus que ça, ou que ça va plus loin. Mais c'est vrai qu'encore maintenant, on parle des pouvoirs, on parle du pouvoir de l'argent, on parle du pouvoir de la sexualité, etc. En fait, tous ces pouvoirs-là de notre société actuelle, on les retrouve du temps de Malachie. Et eux, ils ont un problème avec la dîme et les offrandes. Alors, c'est quoi? C'est quoi la dîme et les offrandes? Eh bien, la dîme, c'est bon de se souvenir que c'est un principe qui est extrêmement vieux, qui existait déjà avant que le peuple hébreu n'existe. Déjà dans les peuples mésopotamiens, il y avait ce principe de la dîme, d'apporter la dîme à une autorité ou à quelqu'un ou à une institution. Et on voit pour Abraham, par exemple, lui, il a donné sa dîme à Melchisédek, qui était roi de Salem. Et tout ça, c'était avant la loi de Moïse. Mais quand il y a eu la loi de Moïse, eh bien, c'est tout ce qui concerne la dîme et les offrandes, ça a été structuré. On a simplement mis les choses en place pour que le peuple sache comment gérer, à qui donner, pour quelles raisons, combien, quoi. Alors, qu'est-ce que c'était la dîme du temps de Malachie, du temps à partir de la loi de Moïse jusqu'au temps de Malachie? Eh bien, ce n'était pas le 10% de l'argent. C'était le 10% du revenu des produits de la terre. Et ça veut dire, par exemple, les fruits et légumes. Ça veut dire les céréales. On parle souvent du blé, du moût et de l'huile. Mais ça englobe en fait tous les fruits et légumes, céréales, tout ce que peut donner la terre. Donc chaque année, il fallait mettre de côté le 10%. Oui, le 10% de tous ces produits de la terre. Et en plus de ça, il fallait aussi mettre de côté le 10% du gros et du menu bétail. Jusque-là, ce n'est pas financier, mais ça touche quand même à quelque chose qui est le produit d'un travail, qui est un revenu. C'est quelque chose qui nous permet de pourvoir à nos besoins, à des besoins primaires. Alors, comment ça se passait pour ces dîmes? Pour les récoltes, c'est assez simple. En fait, on ramasse une récolte et puis on compte jusqu'à 10, on prend une part de ces 10, on met de côté. Ça, c'est facile. Pour le bétail, pour ne pas choisir seulement les bêtes un peu chétives dont on ne veut pas, les éleveurs faisaient passer devant eux leurs animaux, puis ils comptaient. Ils faisaient passer tout le troupeau, puis ils comptaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ils prenaient ce dixième, et puis ils la mettaient de côté. Et il y a les suivants qui passent, 1, 2, 3, 4, 5, 10, etc. Comme ça, il n'y avait pas de tri. On prenait simplement le dixième, sans calcul, sans regarder quelle est cette part. Je ne vais pas donner un mauvais ou un très bon animal, je prends simplement le dixième. Ça, c'était le principe. Mais il y avait aussi quelque chose. C'est qu'on pouvait aussi, si on préférait donner de l'argent, on pouvait le faire. Mais il y avait une subtilité. Et ça, on le lit dans les Lévitiques, Lévitique chapitre 27, les versets 30 à 33. Lévitique 27, 30 à 33. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Eh bien, les animaux, c'était le 10%, point. Par contre, pour tous les fruits de la terre, si on voulait ne pas amener nos récoltes en tant que dîme, eh bien, il fallait apporter le 10%. Enfin, il fallait apporter ce prix, le prix de ce 10%, mais le majorer d'un cinquième. Donc là, la dîme, ce n'était pas 10%, c'était davantage. Ce qui fait que déjà là, ça nous dit, tiens, la dîme, c'est peut-être pas, il ne faut peut-être pas être trop rigide, c'est 10% point barre. La dîme, il y a une partie en argent, mais c'est même plus que 10%, et il y a une partie en nature. Et à quoi ça servait et qu'est-ce qu'il fallait faire de cette dîme? Il fallait l'apporter dans les villes. Les gens travaillaient dans les champs, mais il fallait apporter ça dans les dîmes, mais tous les 3 ans, il fallait l'apporter à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est là qu'il y avait le temple. Et donc, le temple représentait la présence de Dieu. Et il y avait 3 fonctions pour la dîme et les offrandes. C'était de venir en aide et de nourrir, de pourvoir aux besoins des pauvres, des veuves, des orphelins et des étrangers. Et c'était pour l'entretien du temple, les réparations du temple, les ustensiles, tout ce qui était nécessaire pour que le temple remplisse ses fonctions. Et c'était aussi pour rémunérer les Lévites ou pourvoir aux besoins des Lévites. Et ça, on le lit dans Deutéronome 14. Les versets 28 et 29. Deutéronome 14, les versets 28 et 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasiront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc on se souvient que les Lévites, c'était la tribu de Lévi qui avait été désignée par Dieu pour s'occuper de tout ce qui concerne au départ du tabernacle, puis ensuite du temple, donc tout ce qui concernait les choses de Dieu, l'entretien des lieux et tout ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne bien. Donc il y avait aussi tout ce qui concerne la louange. Et parmi les Lévites, il y avait des sacrificateurs qui, eux, avaient accès au lieu saint et au lieu très saint. Alors, la dîme et les offrandes que les gens prélevaient et qu'ils apportaient, ça servait pour l'entretien des Lévites d'une manière générale, mais les Lévites eux-mêmes, dans ce qu'ils recevaient, devaient prélever la dîme pour la donner au sacrificateur. Et tout ça faisait que le temple pouvait bien fonctionner. Donc, ça veut dire que les pauvres, les nécessiteux, ils étaient pourvus, que les Lévites, ils étaient pourvus, que le temple pouvait remplir ses fonctions, qu'on pouvait apporter les sacrifices, que tout pouvait se dérouler toute l'année correctement. Ce qui fait que les sacrifices qu'on amenait à l'Éternel, par exemple pour Pâques ou pour des fêtes particulières, ça ne faisait pas partie de la dîme, c'était des choses qui étaient en plus. C'est pour ça qu'on parle des dîmes et des offrandes. C'est vraiment quelque chose de très, très large. Il faut vraiment élargir sa compréhension. Mais ça représente beaucoup. Ce qui était apporté pour Dieu, ça représente vraiment beaucoup. Mais voilà, du temps de Malachie, voilà ce que Dieu dit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple allait tellement mal qu'ils n'apportaient plus leurs dîmes et leurs offrandes. Ils n'amenaient plus rien au temple. Ce qui fait que le temple, il était en train de dépérir, je ne sais pas comment ce qu'on dit, mais il n'était plus entretenu. Les sacrifices, on avait déjà vu que c'était un petit peu fait n'importe quoi, n'importe comment, c'était négligé. Et puis les Lévites, eh ben, du coup, ils avaient faim. Ils avaient faim parce qu'ils ne recevaient plus leur nourriture, parce qu'ils étaient complètement délaissés. Et Néhémie nous en parle, c'était un problème, Néhémie, Esdras, hein, c'est à peu près la même période que Malachie. Néhémie, il en parle de ça au chapitre 13, les versets 10 à 12. Il dit « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres, chargés du service, s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. » Les Lévites, en fait, vu qu'il n'y a plus rien qui arrivait au temple, eh bien, ils ont dû fuir, ils ont dû aller dans les champs et devenir eux-mêmes agriculteurs simplement pour subvenir à leurs besoins. Et ça ne faisait pas partie de l'ordre que Dieu avait mis. Et c'est pour ça que Dieu dit « Mais vous me trompez, ça ne va pas, maintenant il vous faut revenir. Ramenez de nouveau les dîmes dans le temple pour que les choses puissent fonctionner correctement. » Ça veut aussi dire que les pauvres ne recevaient plus d'assistance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient délaissées. Alors on peut se poser la question, aujourd'hui les églises, est-ce qu'elles sont délaissées de la même manière que dans Malachie? Ou est-ce qu'elles sont en bonne santé? Je pourrais dire, est-ce que l'Église en général? Eh bien, moi, je crois qu'on a plein d'exemples sous les yeux. On a des exemples très proches, on a des exemples très éloignés. Maintenant, avec Internet, on peut voir ce qui se passe sur toute la surface du globe. On voit qu'il y a certaines églises où elles vont bien, mais on se rend compte que le pasteur va encore mieux. Parce que les dîmes et les offrandes, parfois, tout arrive beaucoup au pasteur et le reste, on ne sait pas. Ou beaucoup dans le bâtiment, mais qu'est-ce qui se passe d'autre, on ne sait pas. Mais il y a aussi des grandes églises qui fonctionnent super bien. Si je pense par exemple à l'église Nouvelle Vie à Montréal, on voit que c'est une très grande église, mais on voit aussi que c'est une église qui pourvoit aux besoins de la société. Ils ont des actions concrètes dans la société et ils sont des sujets, des instruments de bénédiction. Et en plus de ça, le fait qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pourvoir à tous leurs besoins, c'est une église qui forme des leaders. C'est une église, par exemple, qui a formé Dan Lutton, qui est maintenant pasteur et pasteur de louange à Momentum à Bordeaux. Et c'est lui aussi qui fait des chants que nous, régulièrement, le dimanche, nous chantons. Et il y a bien d'autres personnes, en fait, qui sont allées se former à Nouvelle Vie et qui ont fondé ensuite des églises ailleurs, et entre autres en Europe. Et ça porte du fruit et ça se multiplie. Et il y a des églises qui ont d'autres réalités. Et il y a la nôtre. Chaque église a son histoire. Dans quel état est l'église de Suisse? Il y a tellement de visages d'églises différentes que c'est difficile de répondre à la question. Mais on peut se rendre compte que plus on a des compréhensions de ce qu'on va apporter à l'Église, qu'il y a une partie financière, mais pas seulement, que ça dépasse bien ça, ça concerne aussi le temps qu'on consacre. Qu'est-ce qu'on amène à l'Église? Quel est le temps que je consacre à l'Église? Quelles sont les compétences que je mets à disposition? Quelles sont mes temps de prière destinés à l'Église? Quels sont les soins que je donne à quelqu'un qui en a besoin? Quelle est l'écoute que je suis capable d'offrir? Quels sont les conseils que je peux donner à cause de mon bagage personnel? Quels sont les services que je peux rendre? Tout ça, ça fait partie des choses qu'on peut apporter à l'Église. Ce n'est pas seulement financier. La crise du Covid, ça nous a aussi indiqué assez bien, en fait, dans quel état est l'Église, comment est-ce qu'elle va, l'Église. Et l'Église, c'est tout un groupe de personnes, mais c'est aussi des individus, vraiment individuellement. Et ça nous montre, en fait, mais moi, j'en suis où? Quelle est la valeur que je donne à l'Église? Est-ce que l'Église, c'est important? Ou bien est-ce que je suis bien chez moi? Ma foi, maintenant, je suis confinée. Bien sûr, les personnes qui ont des difficultés financières, elles ont une réalité qui est extrêmement difficile. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas le souci financier. Alors, comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce que ça leur suffit de se dire, ben, c'est un moment comme ça où on vit un peu plus lentement? Ou alors, il y a une prise de conscience, mais l'Église, elle est tellement importante et elle l'est de plus en plus selon les circonstances qu'on est en train de vivre. Comment est-ce qu'on comprend l'Église? Comment est-ce qu'on comprend l'importance de l'Église? L'importance de pouvoir s'aider les uns les autres, de s'exhorter, de s'enseigner les uns les autres. Tout ça, ça fait partie de ce même sujet d'apporter toutes les dîmes et les offrandes à l'Église. Alors, est-ce que c'est seulement à l'Église qu'on apporte les dîmes et les offrandes? Ben moi, je pense qu'il y a une bonne partie qu'on apporte à l'Église, mais il faudra toujours être généreux et des besoins. Il y en a bien plus qu'à l'Église. Et c'est, voilà, il faut être assez ouvert pour pouvoir aussi donner à l'extérieur. Voilà, donc Dieu, il est en train de dire, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Le peuple est frappé par la malédiction parce que quand le temple ne remplit plus ses fonctions, eh bien, le peuple ne peut pas récolter les bénédictions. Et c'est la même chose à l'Église. Plus l'Église est en bonne santé et plus ça fonctionne, plus les bénédictions sont là. Alors, Dieu leur envoie un défi. Au verset 10 de Malachie, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. » Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est quand même étonnant que Dieu demande, mais mettez-moi à l'épreuve. Comme s'il disait, mais testez-moi si je suis capable de vous bénir, si je suis capable de répondre à vos besoins. Testez-moi pour voir si je suis capable de faire naître dans votre troupeau assez de bêtes pour que toutes celles que vous me donnez, vous puissiez les retrouver. Testez-moi. C'est assez étonnant comme question parce que Dieu est créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé les troupeaux. C'est lui qui a créé les céréales. C'est lui qui a créé les cultures. C'est lui qui a créé tout ça. Tout nous vient de Dieu. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qu'il faut tester? Est-ce qu'en disant ça, c'est pas Dieu qui dit en fait, mais moi, je veux tester vos cœurs. Est-ce qu'il n'est pas en train d'éprouver les cœurs du peuple en disant, testez-moi? Est-ce que c'est pas lui qui teste? En fait, Dieu est en train de dire, mais êtes-vous capable de m'obéir? Êtes-vous capable de me faire confiance? Êtes-vous capable de lâcher prise et de donner de votre personne, de donner de votre vie, jusqu'où êtes-vous d'accord de vous donner pour moi? Jusqu'où êtes-vous d'accord de perdre votre vie pour moi? En ayant cette confiance que vous allez la retrouver. En fait, il pousse le peuple dans ses retranchements. Alors, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il est question de la dîme et des offrandes et combien, etc.? Eh bien, en fait, dans le Nouveau Testament, il n'en est pratiquement pas parlé. Le mot « dîme », on le retrouve très, très peu. On le trouve essentiellement dans l'Épître aux Hébreux. Mais cette Épître des Hébreux nous parle essentiellement de l'Ancien Testament. Elle fait un peu le lien entre l'Ancien Testament et justement tout ce qui concerne le temple, le tabernacle, etc. tous ces principes spirituels de l'Ancien Testament, l'Épître aux Hébreux les explique, puis nous les ramène à maintenant. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ce mot dîme. Mais dans les autres épîtres, dans les évangiles, ce n'est pas un terme qui revient souvent. Par contre, le thème de l'argent, ou le thème de donner, de subvenir aux besoins des plus fragiles, aux plus vulnérables, ou de soutenir l'Église, ça revient sans cesse. Jésus en a énormément parlé, les apôtres en ont énormément parlé, et Paul, qui est venu après les apôtres, qui est arrivé après coup, il a toujours obéi à ce que les apôtres, les premiers apôtres disaient, de subvenir aux besoins des plus pauvres. Et il organisait des collectes. Et pour Paul lui-même, ben c'est intéressant de voir qu'il y a des moments où il a subvenu lui-même à ses besoins et il y a des moments où il a reçu des offrandes. Donc il y a eu plusieurs cas de figure différents. Ce n'est pas une façon de vivre les choses figée, rigide. Quand il écrit aux Galates, c'est un peuple qui... Enfin, un peuple, les Galates, c'est des chrétiens qui pensent encore qu'en fait, on est sauvé par les œuvres plutôt que par la foi. Puis, ils ont pris une drôle de direction. Et toute la lettre aux Galates, Paul, il fait un remontage de bretelles. Il les reprend sévèrement. Et là, il leur dit qu'en ce qui concerne leur argent, il en veut pas. Il voudrait pas. Il se fait une fierté de ne surtout pas dépendre d'eux financièrement. Parce qu'il ne veut pas que ce soit instrumentalisé. Par contre, pour les Corinthiens, eux aussi, ils ont des choses à revoir dans leur compréhension. Et aux Corinthiens, il les reprend. Et des fois même, il se plaint. Des fois, il dit, mais est-ce que c'est seulement moi et Barnabas qui n'avons pas le droit d'être aidés, qui n'avons pas le droit d'avoir notre épouse avec nous pour servir le Seigneur? Et est-ce que c'est seulement nous qui devons nous débrouiller tout seuls? Et il leur dit aux Corinthiens, mais vous avez commencé à faire une collecte pour les plus pauvres de Jérusalem, mais allez jusqu'au bout, ils en ont besoin. Et par contre, aux Philippiens, il les remercie parce que par deux fois, les Philippiens lui ont fait parvenir quelque chose qui l'a aidé. Quand il a commencé son travail avec Aquilas et Priscille, il a marqué qu'ils avaient le même métier, ils faisaient des tentes. Mais juste un ou deux versets plus loin, ça c'est dans les Actes, il y a marqué que quand l'offrande est arrivée de Macédoine par Timothée, et je ne sais plus si c'est Tychique ou je ne sais plus le deuxième, mais il a reçu de l'argent de Timothée, et bien là, il a arrêté de faire des tentes et il s'est consacré entièrement à la parole de Dieu, au ministère de l'Évangile. Donc ce principe-là, il n'est pas figé. Parfois, ça se passe d'une manière, parfois ça doit se passer d'une autre. Donc, ce qui est important à comprendre quand Dieu dit « mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve », c'est de savoir déjà quelles sont mes compréhensions. Est-ce qu'elles sont justes devant Dieu? Pourquoi est-ce que je fais les choses? Est-ce que je fais les choses selon le cœur de Dieu ou est-ce que je me mets sous un joug? Et ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande. Je crois que Dieu nous demande tout. Il ne nous demande pas le 10% de notre vie, il nous demande vraiment tout. Mais on ne peut pas non plus tout donner et puis tout à coup se retrouver à la rue. On doit aussi être sage, mais on doit comprendre les principes de Dieu et c'est son Saint-Esprit qui peut nous donner ces révélations pour que nous puissions être justes devant lui. Jésus nous dit on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres, mais on ne peut pas ne pas servir de maître. De toute façon, dans ce domaine de donner, le domaine des finances ou de ce qui nous appartient, quand je dis finances, c'est vraiment très large, hein, pas seulement argent, mais vraiment nos possessions, nos biens. Soit on va suivre Dieu, soit Dieu sera vraiment notre Dieu, soit ce sera Mammon. Et en fait, des fois, on fait un peu les essuie-glaces. C'est difficile d'être vraiment constant parce qu'on peut être soumis à l'esprit de Mammon en donnant. Je peux donner ma dîme parce que je suis soumise à Mammon. Je me dis, je donne ma dîme, déjà je l'ai bien comptée au centime près et je commence à calculer, est-ce que c'est mon salaire brut ou mon salaire net, est-ce que si, est-ce que ça. Je donne ma dîme, comme ça je serai bénie par le Seigneur, comme ça je suis déculpabilisée, comme ça j'ai pu faire mon devoir. Eh bien, cet état de cœur, il peut me dire, mais peut-être que je ne suis pas en train d'être soumise à Dieu. Peut-être que c'est juste l'esprit de maman qui me fait réagir ou raisonner de cette manière-là. Donc, c'est assez subtil. Est-ce que j'ai une culpabilité quand je donne ou est-ce que j'ai une culpabilité quand je ne donne pas? Pourquoi? Qui est-ce que je crains? Qui est-ce qui a autorité sur ma façon de faire, sur ma façon de gérer ces choses-là? En fait, ça peut aller très loin. Moi, je réfléchissais, par exemple, à ma consommation. Si je vais m'acheter des habits, est-ce que je vais aller m'acheter les moins chers? Est-ce que je vais essayer de faire en sorte que ça corresponde à un petit budget, je vais acheter le moins cher, sans trop réfléchir qui a fait ces habits, dans quelles conditions? Ou est-ce que je vais me dire, ben, je vais acheter moins souvent, je vais mettre de côté, mais quand j'ai une somme, eh ben là, je vais m'acheter des habits, mais je sais à qui je vais les acheter et je sais dans quelles conditions ces habits seront faits. Et je sais que ce sera une bonne qualité, donc ça va durer plus longtemps, mais au moins, j'aurai respecté les personnes qui auront fait ces habits. Je n'aurai pas cautionné un trafic d'êtres humains. C'est la même chose quand on va acheter nos tomates. Si on sait que ça vient d'Espagne et puis que les gens sont exploités dans les plantations, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'attendre un petit peu pour pouvoir acheter des tomates de saison qui viennent de par chez nous? Je vous donne juste des petits exemples comme ça. En fait, ce sujet-là, de la dîme et des offrandes, ça touche à toute notre consommation, à toutes nos compréhensions. C'est vraiment extrêmement large. Mais dans tout ce qu'on fait, pour qui on le fait, en étant soumis à qui, pour quelles raisons, et comment est-ce qu'on peut honorer Dieu dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on garde, dans tout ce qu'on donne, dans tout ce qu'on distribue, dans tout ce qu'on partage. Dieu dit au peuple, mais mettez-moi à l'épreuve, parce qu'il sait que c'est lui qui met leur cœur à l'épreuve. Et ensuite, il dit, mais si vous y arrivez, si vous lâchez prise et vous mettez votre cœur en ordre et vous me donnez ce qui est juste de donner, eh bien voilà, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. On peut comprendre qu'il s'agit, par exemple, des criquets. Il y avait des fois des invasions de criquets, et ça c'était un fléau. Les criquets, ils ravagent tout sur leur passage, ils bouffaient toutes les plantations. Et les gens comprenaient que c'était un jugement de Dieu. Et là, il est en train de dire, eh bien, si votre cœur est juste et aligné au mien, je menacerai le criquet, parce que moi j'ai autorité sur le criquet, et j'empêcherai qu'il vienne ravager vos cultures. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, parce que c'est moi qui fais pousser. C'est moi qui fais enfanter les biches, c'est moi qui fais toutes ces choses-là. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Pourquoi toutes les nations diront que c'est un peuple heureux? Eh bien, c'est parce que ça va se voir. Dès que les cœurs de toute la nation, parce que là, il s'agit vraiment d'un groupe, dès que le cœur et la façon d'agir de toute la nation sera conforme à ce que Dieu demande, ça va se voir. Il y aura des bénédictions. Il y aura des bénédictions et ça va faire envie. Et ça va encore attirer d'autres personnes à l'Éternel. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'Église d'aujourd'hui? Ça voudrait dire que quand l'Église, elle est pourvue, quand elle est pourvue en argent pour l'entretien des locaux, pour acheter des chaises, pour acheter du désinfectant pour les mains. Ça, c'est juste pour vous détendre un peu. Quand l'Église a tout ce qui est financier pour pouvoir entretenir ce qu'il faut, quand l'Église est pourvue en personnes qui prient, quand l'Église est pourvue en personnes qui soutiennent, qui rendent des visites les uns aux autres, quand l'Église est pourvue en conseil de ceux qui ont des compétences dans divers domaines, eh bien, la vie reprend. La prière est efficace. Il y a du temps pour la prière. Il y a un engouement pour la prière. Les enseignements qui sont donnés sont bons parce que c'est des personnes qui ont pu aussi être formées. Là, je prêche pour ma paroisse. La communion fraternelle, elle libère les gens de la solitude. En fait, il y a tout qui est en train de se mettre en place. Chaque pièce du puzzle se met à sa place. Chaque personne trouve sa place, porte du fruit et ça se voit et on fait la différence. Et c'est ce qui va attirer les gens. C'est déjà le cas, hein? c'est déjà ce qui se passe. Mais c'est des principes qui sont importants de comprendre, parce que parfois on se dit juste, ben voilà, l'Église, on sait qu'elle fonctionne essentiellement avec les dîmes et les offrandes. Souvent on dit 10% c'est à l'Église, les offrandes c'est ailleurs. Mais en fait, ça peut même être la dîme plus les offrandes à l'Église, plus d'autres offrandes ailleurs. Et peut-être qu'à un moment donné, ça devra être différent. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre le principe. Ce que j'apporte, c'est d'abord à Dieu que je le donne avant de le donner à qui que ce soit. C'est pour que sa maison soit pourvue, c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison, pour que chacun soit nourri, pour qu'on fasse la différence sur cette terre et que de plus en plus de personnes puissent bénéficier de la présence de Dieu qui se manifeste au travers de l'Église. Alors voilà, en conclusion, parfois on est éloigné de Dieu, parfois il y a des choses qui font obstacle, et puis c'est bon de demander au Seigneur qu'il nous dise « mais c'est quoi ?» Et quand ça touche à ce sujet de la dîme, des offrandes, de ce qu'on peut investir aussi de notre personne, bien c'est bien de demander au Saint-Esprit qu'il place en nous des convictions, qu'il nous donne des révélations aussi si on a besoin de mieux comprendre ses principes. Et quand on se surprend à beaucoup calculer, à réfléchir, à avoir peur, de se dire « mais si je donne ça, est-ce que ça va le faire ou bien pas ou combien ?» Et bien là, on peut se poser la question « mais est-ce que mon calcul est juste ? Est-ce que c'est un calcul de sagesse qui est correct devant Dieu ? Ou est-ce que c'est un calcul de peur ou qui montre qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui doit encore être purifié ?» Il faut de la sagesse. Et en dernier lieu, et bien placer totalement notre confiance en Dieu, parce que c'est lui qui pourvoit. Parfois, on se trouve dans des situations qui semblent tellement désespérées, et je pense entre autres aux gens qui ont perdu leur travail, en particulier pendant cette période de Covid. Ceux qui sont au chômage, mais on sait bien que le chômage ne paye pas le 100% du salaire, et parfois déjà le salaire de base est vraiment précaire. Eh bien, c'est de se dire, mais Seigneur, mais c'est toi qui peux tout. Tout nous vient de toi. Alors, aide-moi à comprendre comment tu vas créer un chemin dans ma situation, comment tu vas ouvrir la mer, comment tu vas faire en sorte que je puisse passer ce passage difficile, de quelle manière est-ce que tu vas pourvoir à mes besoins, quels qu'ils soient. Parce que je crois que dès qu'on place notre confiance en Dieu, Dieu ouvre des portes. C'est pas toujours les portes auxquelles on a pensé. C'est pas forcément tout à coup, paf, une augmentation de salaire, ou ça peut être un nouveau travail, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi de l'aide en nature. Moi, dernièrement, c'était en début de la semaine, j'ai reçu un téléphone, et vous savez, on reçoit toujours des téléphones pour les énergies, pour les assurances, pour les machins, et quand je reconnais les numéros, je ne réponds pas. Mais là, je n'ai pas reconnu le numéro et j'ai répondu. Et en fait, c'était un conseiller de ma propre assurance maladie. Et il m'a expliqué des choses et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait des années que je paye trop, que je peux payer moins en étant mieux couverte. Donc, ça fait des années, en fait, que j'aurais pu faire des économies. Et juste à cause de ce coup de téléphone, je peux remettre les choses en place. Et puis, ça va me permettre, ce n'est pas des 1000 et des 100, mais ça va me permettre simplement de récupérer un petit quelque chose. Ben ça, c'est aussi une façon dont Dieu répond. Il faut vraiment avoir nos antennes ouvertes. Ben, Seigneur, moi, j'ai des besoins. De quelle manière est-ce que toi, tu vas répondre ? Et ça peut vraiment être très, très, très divers. Alors, soyons ouverts et ayons vraiment ce face-à-face avec Dieu. C'est lui qui répond à nos besoins. Et l'élan de notre cœur, c'est de rendre ce qu'on peut lui rendre en fonction de ce qui est juste. Pas sous la pression, pas sous la culpabilité, mais en fonction de ce qu'on a compris. Ça, c'est juste et je le fais avec joie. Et pour terminer, je vous lis le verset vraiment extrêmement connu de l'apôtre Paul. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 9. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 9. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il n'y a pas marqué celui qui donne beaucoup ou peu, celui qui donne avec joie, avec le cœur libre. et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen.